F.I.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous sommes 7 milliards 700 millions d'humains. 7 milliards 700 millions, un chiffre que nous n'arrivons pas à concevoir, mais qui est le résultat de l'évolution de notre espèce. Une espèce qui a su s'adapter à son environnement, innover, inventer pour survivre. L'histoire que nous allons vous raconter s'étale sur 2 millions d'années. 7 milliards 700 millions d'homo sapiens, d'hommes sages. Méritons-nous vraiment le nom que nous nous sommes donnés et notre capacité d'adaptation va-t-elle être suffisante pour affronter ce que nous avons créé ? Un monde urbanisé, pollué, avec des écosystèmes dégradés. Il semblerait que ce soit l'heure de l'addition. Notre omniprésence sur la planète nous met face à nous-mêmes. Sapiens face à sapiens. C'est le titre du dernier livre de notre invité, le paléo-anthropologue Pascal Pic.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Bonjour Pascal Pic.
Bonjour Cécile.
Vous êtes paléo-anthropologue au Collège de France. Vous vous intéressez aux évolutions des sociétés humaines en relation avec leurs innovations techniques et culturelles. Alors votre dernier livre, Sapiens face à Sapiens, publié chez Flammarion, a un sous-titre, La splendide et tragique histoire de l'humanité. Alors splendide, nous allons y revenir, mais pourquoi tragique ?
Eh bien parce que si je vous demande, à vous comme aux auditeurs et auditrices, qu'est-ce qui fait que les espèces changent, donc évoluent ? On pense évidemment aux catastrophes naturelles. Il y en a eu, c'est Jurassic Park, le météorite, mais les pauvres dinosaures, ils avaient d'autres problèmes aussi. Mais en tout cas, ça intervient. La deuxième chose moins connue et qui est très importante pour la suite de nos entretiens, c'est la coévolution. Nous n'évoluons pas seuls, nous coévoluons avec les autres espèces. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler parce que la dégradation des écosystèmes, c'est autant de potentialités au moins pour s'adapter demain. Maintenant, la raison que l'on oublie tout le temps, c'est le succès. Et ça, ça peut vous surprendre. Parce que plus une espèce a du succès, plus elle modifie l'environnement dans lequel elle a eu du succès. Alors, ça ne se voit pas à la radio, je suis un baby boomer, assez en forme quand même, mais depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3. L'espérance de vie pour les pays occidentalisés, mais les autres nous rattrapent, tant mieux. 20 ans, 25 ans, une vie de senior absolument géniale, on est au consommé, la liberté, enfin tout ça c'est extraordinaire, donc ça c'est le côté splendide. Mais ce succès est tellement fulgurant, on a multiplié la population par 3, que là évidemment il faut s'adapter aux conséquences de ce succès, et ça c'est difficile, parce que des gens vous disent, oui mais regarde, on a eu du succès. Oui, mais un évolutionniste vous dira, l'évolution nous apprend une chose, que nous vivons sur les adaptations du passé et qu'il faut construire celle de demain.
Alors, on va y revenir, mais revenons tout d'abord aux origines de l'homme. On va faire l'histoire dans le bon sens. Alors, il ne reste plus qu'une seule espèce d'homme. Aujourd'hui, c'est nous, les Homo sapiens. Mais à l'origine, il y en avait beaucoup d'autres, toutes nées en Afrique d'ailleurs.
Alors, pas toutes, mais en tout cas, le genre Homo, le genre humain, commence en Afrique il y a 2 millions d'années. Avant, il y avait Lucie, les Australopithèques, un groupe un peu diffus, un peu compliqué, sur lequel on discute beaucoup, qu'on appelle les premiers hommes, Homo habilis, Homo delphensis, et les vrais hommes, qui s'appellent les Homo erectus et les vraies femmes, parce que là aussi, je parle aussi du côté femme dans ce bouquin, on l'évoque assez trop rarement. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils inventent la deuxième coévolution. C'est-à-dire que nous autres, les humains, nous sommes d'abord des espèces de très grande taille. Ça peut surprendre, mais on est fait partie des plus grosses bêtes qui ont jamais existé sur cette Terre.
Parce qu'on s'est mis debout.
Pas parce qu'on s'est mis debout, mais par exemple aussi parce que on fait 50-60 kg. Il faut savoir qu'il y a très peu d'espèces qui font plus que cela. Alors, on nous impressionne, c'est normal, mais en tout cas, on est du côté des grosses bêtes. Déjà, plus debout, donc ça impressionne. La deuxième chose, c'est que ce genre humain va inventer la deuxième coévolution. Nous sommes très plastiques d'un point de vue morphologique, c'est-à-dire la taille et la forme. On peut changer très vite. Très plastique d'un point de vue physiologique, donc les fonctions de l'organisme, et puis surtout l'espérance de vie, l'adaptabilité. Et nous sommes très plastiques d'un point de vue cognitif. Eh bien, ceci, évidemment, a servi pour l'apparition des premiers hommes depuis nos ancêtres qui étaient auparavant. Et puis surtout, cette plasticité va répondre à nos environnements techniques et culturels. Donc là, à cette époque-là, c'est le feu, notamment, et d'autres outils. Et de ce fait, avec le feu, eh bien, il va y avoir la capacité de s'adapter à tous les environnements, de traiter la nourriture, la cuisson. Le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie. Donc évidemment, ça va être un apport supplémentaire par le traitement chimique des nourritures. Mais c'est aussi la protection, c'est aussi l'ouverture du monde de la nuit, l'éclairage. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des technologies généralisées qui impacte l'ensemble de la société. Et ça commence avec Homo erectus.
Alors, pourquoi on est à quelle période à peu
près ? On est à 2 millions d'années en Afrique. Mmh. Et pourquoi j'en parle ? Parce qu'il y a aussi le langage qui apparaît à cette époque-là, enfin, qui se développe surtout. Il y a aussi les premières considérations esthétiques. Donc, vous avez tout un ensemble d'éléments qui fait que l'humanité va continuer à coévoluer comme les autres espèces avec les autres organismes vivants, mais en plus avec des interférences très complexes avec ces environnements techniques et culturels. Et à partir de là, ça va complètement changer les choses. C'est le côté splendide, puisque nous allons de plus en plus, enfin nos ancêtres Homo erectus s'adapter à d'autres écosystèmes. Ils vont aller vers l'Europe, vers l'Asie. Et à partir de là, donc cette expansion va être complètement unique parce qu'aucune espèce n'a pu s'adapter comme cela aux autres écosystèmes. Donc il y a du biologique qui nous permet de cela, mais qui est couplé, articulé, interféré avec donc les techniques culturelles. Et cette plasticité, c'est ça ensuite la suite du livre, va donner ce côté splendide, comme vous l'avez souligné, en tout cas, qui n'est comme jamais c'est arrivé au sort de l'évolution. Et cette adaptabilité, c'est ça l'objet du livre, que va-t-elle devenir dans le monde aujourd'hui qu'on a transformé ?
Alors, ce qui est fascinant, c'est que, vous le disiez, on est parti d'Afrique, hein, avec plusieurs espèces d'hominidés. Bon, ouais. Et à un moment, il y a des hommes qui ont osé prendre la mer, osé naviguer, avec une conception du monde, finalement, en se disant on peut aller plus loin, alors qu'ils ne savaient pas nager, ils n'avaient aucune expérience de ce qu'il y avait après.
Nager, on ne sait pas, mais en tout cas, ils ne savaient pas ce qu'il y avait.
Alors, là, c'est encore plus courageux que les grands explorateurs, type Christophe Colomb ou Vasco de Gama.
Oui, ils avaient déjà des portolans, les Chinois étaient passés un petit peu avant, mais ça, on ne l'a pas dit dans l'Occident. Mais alors, entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? Donc, Homo erectus, 2 millions d'années en Afrique. Il s'étend en Afrique et il sort très vite sur l'Europe et sur l'Asie. À partir de là, ces populations humaines vont diverger, sauf qu'on a du mal à suivre ce qui se passe, parce que, bien sûr, on a de plus en plus de fossiles, on a aussi l'archéologie, les outils préhistoriques qui nous aident, la pierre se conserve mieux que l'os, mais néanmoins, voilà, c'est une grosse vague sur 3 continents, on n'est pas capable de dire si on a déjà plusieurs espèces. Mais à partir de 500 000 ans, là, nous commençons à avoir un tableau assez clair de ce qui se passe, de ce grand tronc commun erectus sur lequel nous n'avons pas encore assez de précision. Nous allons avoir sur l'Afrique l'origine de Sapiens, donc Homo sapiens, nous, donc en Afrique et le sud du Proche-Orient. Sur l'Europe et la Russie jusqu'en Sibérie, ce sera les hommes de Néandertal. Et à l'est de l'Asie, une espèce assez mystérieuse qu'on connaît par l'ADN, mais très peu par ses ossements, qu'on appelle les hommes et les femmes de Denisova. Donc il faut imaginer, ça peut vous surprendre que j'utilise ce terme, mais il y a 3 empires humains qui cohabitent et qui, bien sûr, se rencontrent au Proche-Orient, comme toujours, il n'y a pas le choix, et qui vont échanger des gènes et des cultures. Alors là aussi, c'est un des éléments des dernières années dans nos découvertes. On a tous appris à l'école, c'était un dogme, une espèce, c'est les individus qui se reproduisent entre eux, et on n'a pas de gènes des autres. Faux. Au Proche-Orient, il y a toujours eu des rencontres depuis 500 000 ans, entre les ancêtres de Néandertal, les ancêtres de Sapiens et les ancêtres de Denisova. Donc, comme ils n'avaient pas complètement dérivé, il était tout à fait possible qu'il y ait transfert de gènes, et c'est ce qui va se passer. Certains de nos caractères viennent de Néandertal, ailleurs en Asie. Certains des caractères de nos amis d'Asie viennent des amours avec Denisova et autres. Donc, il faut imaginer qu'il y a encore 100 000 ans, il y avait 3 grandes espèces humaines. Donc je répète, parce que c'est pas forcément évident, hein, c'est assez nouveau. Donc sur l'Afrique et le sud du Proche-Orient, nous les sapiens. Néandertal, Europe, Sibérie, Russie, une partie du Proche-Orient, bien sûr. Et sur l'extrême Asie, les hommes de Denisova. Et il y avait des espèces toutes petites, isolées sur des îles. Donc l'île de Luzon, qu'on vient de découvrir d'ailleurs. Pas l'île, mais des hommes qui étaient dessus. Et également donc les petits hommes de Flores. Donc voilà le monde tel qu'il était. Et puis arrive l'homme moderne. Donc les sapiens que nous sommes, donc les sapiens nouveaux, si je peux me permettre. Eux, ils émergent en Afrique vers 120 000 ans, du stock de sapiens donc plus anciens. Ils vont sortir d'Afrique, ils vont se mélanger génétiquement avec les sapiens plus archaïques, mais là, ça va, c'est la même espèce. En allant au nord, sur le corridor de la mer Noire, ils vont rencontrer Néandertal, et pendant 50 000 ans, on va échanger des cultures et des gènes, et des outils, bien sûr. Et pareil, nous allons aller très vite vers l'est. Et ce qui est incroyable, c'est que nous sommes d'abord en Australie, nous les sapiens, avant d'être en Europe. Pour quelle raison ? Ben, Néandertal est super bien installé. On fait l'amour avec eux, on se cogne un petit peu dessus certainement, mais en tout cas, il ne laisse pas passer. Pareil pour Denisova. Mais il y a une particularité que vous venez d'évoquer avec ces sapiens, c'est qu'ils naviguent depuis 100 000 ans. Et ça, on a des traces donc, archéologiques dans le sud de l'Afrique, donc à Blombos, à Pinnacle Point, enfin l'Afrique du Sud, où là, les hommes, qui sont des sapiens comme vous et moi quasiment, ont développé une économie du littoral. Donc, ils savent pêcher, ils savent faire de la navigation par cabotage, ils savent utiliser les ressources, poissons, mammifères, crustacés. Donc, ils apprennent. Et eux vont évidemment passer le long de la côte orientale de l'Afrique. On les a vers 100 000 ans aussi sur des sites littoraux de l'Arabie Saoudite. Et très rapidement, à l'échelle de l'épreuve, mais c'est quand même vachement rapide, ils vont se retrouver là, près au bord de la mer de Chine et de l'Indonésie. Et là, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que devant eux, c'est l'inconnu absolu. C'est 70 km de mer, au minimum. Quel que soit le niveau des mers, ça s'appelle la ligne de Wallace. Aucun mammifère placentaire que nous n'a pu traverser. Et l'autre côté, c'est les marsupiaux, vous savez, d'Australie, qui sont en train d'avoir chaud en ce moment, comme vous le savez, malheureusement. Et là, donc, c'est l'inconnu absolu. Et ce qui est nouveau avec Sapiens, et ce qui va s'exprimer dans l'explosion de l'art préhistorique, mais partout dans le monde, il n'y a pas qu'en Europe, hein. Ça commence d'ailleurs en Afrique, en Europe, Bornéo, Australie. Et là, ils vont aller dans l'inconnu absolu, il y a plusieurs vagues. Qu'est-ce qui fait que, voilà, que d'un point de vue cognitif, des croyances, des représentations du monde, ces hommes et ces femmes, c'est pas qu'une question technique, sont allés au-delà de l'horizon et il y a eu plusieurs passages, Australie, Océanie,
on
les Amériques.
On le sait, ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont été poussés à... Il y a des recherches encore en cours. Est-ce qu'on a des matériaux pour élucider ces mystères?
On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Pour quelle raison? Parce que, vous savez, c'est l'histoire du signifiant et du signifié. Donc le signifié, on l'a, mais on n'a pas le signifié. Donc on voit bien dans les représentations symboliques. Parce que ce qui est nouveau aussi avec ces Homo sapiens, c'est déjà le cas avec Néandertal. Denisova, on ne sait pas pour l'instant, mais on sait qu'ils avaient des objets artistiques. Mais il y avait déjà de l'art et de la parure. La parure, c'est la cosmétique. La cosmétique, c'est l'étymologie de cosmos. Ça veut dire que seuls nous, les humains, sommes capables de changer nos apparences en fonction de nos injonctions personnelles, sociétales, les obligations, les rituels. Donc, la cosmétique, c'est pas la mode. Hein, on dit aujourd'hui cosmétique, on lâche, c'est superficiel. Et non, mon ami, ça veut dire que nous sommes dans un rapport de représentation à soi et à l'autre, et au cosmos. Et donc là, si ça existait un petit peu avant, vraiment vers 100, 120 000 ans, on a une explosion de toutes les formes d'art. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, toutes les formes d'art ont été inventées par les sapiens préhistoriques, qu'on appelle Cro-Magnon d'Europe, mais ils ont d'autres noms ailleurs. Et les nouvelles formes d'art n'arrivent qu'à la fin du 19e siècle avec la photographie, le cinéma. Hein, faut rappeler ça. Ils avaient inventé la peinture, la gravure, les coiffures, ils avaient inventé tout ça. Et c'était pas aussi glauque comme des SDF de la préhistoire tels qu'on les décrit. Non, ils avaient des pareux, ils étaient beaux, ils avaient de la teinture, etc. Pas tous, bien sûr, mais ils étaient pas aussi sinistrés qu'on les représente tout le temps.
Et qu'est-ce qui fait que Sapiens est devenu l'espèce dominante ?
Alors, c'est une révolution cognitive, soyons très clairs. Alors là, comment Sapiens est devenu dominant ? Parce qu'il est vrai, nous aurions été il y a 100 000 ans, hop, coup de baguette magique, personne n'aurait pu dire, voilà, on y va avec RFI, on s'installe sur le Mont Carmel, il y avait Néandertal, il y avait Cro-Magnon, Denisova était dans le coin, personne n'aurait pu augurer de ce qu'allait se passer. C'est pour ça qu'on passe pas, parce que tout s'est très bien installé. Et d'un seul coup, il y a l'homme nouveau, qu'on appelle Sapiens Sapiens aussi. Enfin, déjà, Sapiens, une fois, ça suffit, je pense. Et là, ces nouvelles représentations du monde qui s'expriment, sans qu'on sache ce qu'elles sont exactement, par l'explosion de toutes les formes de parure et d'art, montrent qu'ils ont d'autres représentations du monde, donc conceptions du monde, dont certaines, ils vont les amener à aller vers l'inconnu absolu. Parce que quand même, l'Australie, faut y aller. Mais l'Océanie, dans une pipe, c'est des îles qui sont disséminées partout. Et on pense même aujourd'hui qu'ils sont arrivés en Amérique du Sud, avant ceux qui sont arrivés par le nord. Et donc, peut-être aussi, ils ont traversé de l'Atlantique depuis l'Afrique vers les Açores et l'Amérique.
Sur des troncs d'arbres
Ah non, ils savaient déjà construire des radeaux.
Quand même.
Les innovations techniques complexes sont beaucoup plus anciennes qu'on l'imagine. Voilà, nous, en archéologie, en paléanthropologie, on vous dit toujours la plus ancienne découverte. Mais la plus ancienne n'est pas celle qui était dans l'absolu la première, bien évidemment.
Alors, ce qui est passionnant, Pascal Pic, à la lecture de votre livre, c'est la manière dont nous avons su nous adapter grâce à une capacité spécifiquement humaine, la coévolution à la fois biologique et culturelle. Nous en parlons juste après une pause musicale. Oui, non. Ya wo e na mianu ku sena kizumi ya wo e na mianu ku meni ya tumi oh aboe se domi kodiye do na e doni sena kizumi. El Rigo dans C'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes en compagnie du paléo-anthropologue Pascal Pic qui vient de publier Sapiens face à Sapiens chez Flammarion. Pascal Pic, nous les humains avons légèrement tendance, hein, vous le savez, à nous sentir supérieurs aux autres espèces, plus intelligents notamment. Je vous propose d'écouter un extrait de la série L'homme, une espèce à part, réalisée par Franck Courchamp et Laurent Misrahi.
L'homme n'est peut-être pas le plus grand, ni le plus fort sur Terre, mais c'est le seul à avoir développé l'intelligence. Un cerveau exceptionnel qui lui permet d'anticiper, de comprendre, d'inventer. Un cerveau qui lui confère une supériorité indiscutable. Mais qu'est-ce qui définit vraiment l'intelligence? Est-ce la capacité à résoudre des problèmes complexes? À ce jeu-là, les corbeaux se débrouillent plutôt bien. L'utilisation d'outils, alors. Il n'y a pas que les singes ou les oiseaux qui en utilisent. Les poulpes, qui en plus de leur cerveau principal, possèdent un cerveau indépendant dans chaque bras, sont capables de prouesses insoupçonnées. Le langage, voilà une spécificité bien humaine. En fait, non. La majorité des animaux communiquent de manière complexe. Les abeilles peuvent expliquer précisément où trouver quel type de fleur, en dansant. Les grands singes comprennent la langue des signes et peuvent même la transmettre à d'autres. Ils ont aussi des capacités de calcul mental comparables aux jeunes enfants. Même les plantes communiquent entre elles. Les acacias peuvent prévenir chimiquement leurs voisins lorsqu'ils se font manger. Un avertissement leur permettant de sécréter à temps des toxines dans leurs feuilles. Que reste-t-il aux humains qui leur soit propre? La conscience de soi? La mémoire à long terme? L'empathie? Le jeu et l'humour? Ces critères d'intelligence ont tous été observés à maintes reprises chez de nombreuses espèces, des plus évidentes aux plus inattendues. Même la créativité de l'être humain doit être relativisée. Des centaines de milliers d'années avant même l'apparition des humains, les fourmis avaient déjà inventé l'agriculture, l'élevage, les classes sociales, le travail à la chaîne et les réseaux de communication. Finalement, alors qu'il ne parvient même pas à définir l'intelligence des espèces qui l'entourent, la supériorité du cerveau humain ne serait-elle pas insignifiante ?
Pascal Pic, comment réagissez-vous à cet extrait de la série L'homme, une espèce à part, réalisée par Franck Courchamp et Laurent Misrahi ?
Il y a quand même quelque chose qu'on appelle la systématique dans les sciences de l'évolution, qui consiste à regarder les ressemblances et les différences et ensuite de les organiser pour bien comprendre comment sont faites les évolutions et les divergences. Alors, il est vrai qu'il est grand temps que l'on sorte, et là-dessus c'est bien fait, de cette vision que le seul homme est intelligent, que les autres espèces sont dans les instincts, les automatismes, ça c'est complètement crétin. Maintenant, il y a une autre tendance complètement inverse aujourd'hui, consiste à dire l'homme est une espèce parmi les autres. Alors là, je suis pas d'accord. D'abord, parce que d'une manière générale, toute espèce est unique. Bon, ça, c'est une banalité. Mais la deuxième chose, parce que nous allons en parler, aucune espèce n'a dominé la Terre par ses méfaits et son succès. Et si nous étions une espèce parmi d'autres, après tout, bah voilà, c'est déjà arrivé. Non, nous avons une véritable responsabilité. Alors même, si nous avons un cerveau social comme les singes, qui est quand même extrêmement élaboré, d'ailleurs. C'est quand même moi qui ai introduit l'intelligence des grands singes dans le champ de l'anthropologie il y a une trentaine d'années, vous voyez, donc, voilà. Mais l'intelligence des plantes, par exemple, c'est comme pour l'intelligence artificielle, il y a différentes définitions. Si l'intelligence, c'est résoudre des problèmes, oui, l'intelligence est partout dans la nature. L'intelligence qui n'est non consciente. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de débats autour de l'intelligence artificielle en disant « Ah oui, mais il n'y aura pas d'émotion. Mais attends, mon coco, un jour, ça arrivera avec les robots, il y arrivera. » Ça veut dire qu'il y a une espèce de peur qui est encore là-dessus. C'est comme si, parce qu'il y a une forme d'intelligence dans la nature, même non consciente, ou consciente, comme les grands singes, etc., on a l'impression que ça nous enlève quelque chose. Mais rien du tout. Donc voilà, donc, vous voyez, ça joue là-dessus. Et donc, dans ce petit extrait, il y a bien plein de formes d'intelligence. Mais il est vrai qu'il y a des choses que nous faisons mieux que d'autres espèces. Et d'autres espèces font des choses mieux que nous. Ça, c'est la manie de la hiérarchie, c'est pénible. Hein.
Alors, en dehors de cette notion de hiérarchie, il y a quand même une dimension qui est spécifiquement humaine, que vous mentionnez dans votre livre. C'est donc cette coévolution bioculturelle. Ouais. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit.
C'est-à-dire que les humains, qui sont très plastiques, comme j'ai dit, vont modifier leurs environnements et ces environnements vont modifier leurs gènes, voire les sélectionner ou mettre en œuvre des modes d'expression et de diffusion différents. Ça paraît tout simple ce que je dis, mais pendant très longtemps, moi j'ai appris, peut-être comme vous, que oui, l'homme, l'espèce humaine, grâce à la culture, grâce aux techniques, la médecine, quand même c'est extraordinaire, eh bien, nous sommes sortis donc des logiques de l'évolution ou des mécanismes de l'évolution, comme la sélection naturelle, d'ailleurs qui est mal comprise, ça n'a jamais été la loi du plus fort. La sélection naturelle, ça veut dire que certains individus laissent une plus grande descendance que d'autres. Vous voyez, déjà, c'est pas du tout la même chose. Et ça veut dire quoi? Vous pouvez être très fort, hein. Un super rugbyman, hein, costaud, ce n'est pas le bon système immunologique, le virus de la grippe, il n'en a rien à foutre, hein, que vous soyez fort au rugby, hein, vous dégagez, hein, ça ne veut rien dire plus fort. Donc voilà, tout ça c'est une question de variabilité. Et la chose importante, donc, ça veut dire quoi? Ben, je vais prendre l'exemple de ma génération, moi je suis un baby-boomer, nos gènes n'ont pas changé depuis 50-60 ans, eh bien, en changeant nos environnements dans les années 50, l'éducation après 16 ans, ça veut dire que contrairement à mes parents, mes grands-parents, comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, eh bien, quand les jeunes allaient travailler, ils étaient placés, comme on disait, dans les fermes ou dans les mines ou les usines, des travaux durs qui contraignaient le corps, donc ça bloquait les cartilages de conjugaison, donc il y avait une moindre croissance. Ma génération va plus longtemps à l'école, donc le QI en moyenne a augmenté. En plus, on a fait beaucoup de sport. Donc on a gagné 10 à 15 cm de taille corporelle. Super. L'hygiène, l'habitat, le confort, la médecine, on a gagné 25 ans d'espérance de vie avec les mêmes gènes. Donc, vous voyez, donc, tout ceci, ça veut dire quoi? Que là, en changeant nos environnements, nous avons pu exprimer des potentialités qui n'avaient jamais été connues auparavant. Alors, soyons précis. Il y a des gens qui me diront, ouais, mais attendez, il y a quand même des gens qui ont vécu 100 ans. C'est pas la question en biologie. En biologie, c'est pas qu'il y en ait un ou deux qui aient vécu 100 ans. C'est quand la majorité de la population arrive vers 100 ans que ça a une signification.
Il y en a de plus en plus.
Il y en a de plus en plus. C'est ça que ça veut dire. OK? Voilà. Donc, c'est ça la coévolution. Et puis, je donne un exemple précis, par exemple, avec l'arrivée des agricultures. Alors là, nous sommes en Europe. Je vais prendre un exemple européen parce qu'il est bien étudié. Les populations européennes d'aujourd'hui ont un patrimoine génétique, qu'on appelle un génome, qui est composé de deux flux migratoires. Bon, il y avait des hommes, des homo sapiens, des cro-magnons qui étaient en Europe. À 40 000 ans, 30 000 ans, 20 000 ans, jusqu'à 10 000 ans. Et en fait, on a perdu leur gène. Il y a 6 000 ans avant Jésus-Christ, des populations d'agriculteurs venues du Proche-Orient, le Bosphore, ça veut dire le passage du bœuf, donc sont arrivées dans le sud de l'Europe. Et là, donc, se sont installés et ont pris les terres et ont cultivé, etc. Pendant ce temps, dans les plaines d'Europe centrale, d'autres peuples ont fait un autre choix d'économie avec l'élevage, notamment les bovidés et après les chevaux. Et là, ils se sont mis à boire du lait. Et la sélection naturelle joue surtout sur les enfants, ce qu'aujourd'hui on ne connaît pas grâce à la médecine, mais c'était quand même terrible à l'époque. Et le lait, simplement, si vous n'avez pas le gène pour dégrader, avec ensuite l'enzyme pour dégrader le lactose, eh bien, vous mourrez, c'est les diarrhées. Eh bien, en faisant le choix de boire du lait, ces peuples, sans savoir, ont sélectionné les enfants qui n'avaient pas, par variation génétique, les gènes qui permettent de dégrader la lactose. Et ces peuples donc, sont arrivés d'Europe centrale sur l'Europe du Nord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez au cinéma et vous regardez un film, c'est une scène qui se passe ce soir dans une famille et des amis. Si c'est un film du sud de l'Europe, ben les gens, le soir, ils boivent un verre de vin ou un verre d'alcool. Dans le nord de l'Europe, ils boivent un verre de lait. Ben parce que dans le nord de l'Europe, ils ont beaucoup plus de gènes pour digérer le lait chez l'adulte, alors qu'on ne l'a pas dans le sud. Ça, aujourd'hui, ça va continuer avec ce qu'on connaît aujourd'hui, l'épigénétique. Alors, ça peut vous surprendre, mais voyez, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que même nos cultures, et on en croyait que nos cultures nous avaient sortis de la nature, nos cultures reproduisent des mécanismes de l'évolution.
Et ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous écrivez qu'on innove souvent sans but, finalement, et après, à partir de ces innovations, on crée des inventions. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose... moi, je pensais l'inverse. C'est-à-dire, je pensais qu'on inventait et qu'à partir de là, on s'adaptait et on innovait. Mais non, vous dites, c'est l'inverse.
Il y a les deux. C'est vrai que nous avons appris à l'école que les nécessités sont les mères des inventions. Et ça, c'est vrai, c'est une caractéristique des hommes. Là, qu'on n'a pas... Alors si, quand même, un petit peu les chimpanzés ou autres, mais...
Mais par exemple, la roue, l'écriture, François Porcheron, le réalisateur de l'émission, me disait, mais la roue, l'écriture, ça, on l'a inventé par nécessité, par besoin ?
Non, du tout.
Même pas.
Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que les problèmes nous amènent à trouver des solutions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation lamarckienne. Donc, les problèmes attendent leur solution. On les trouve... On ne les trouve pas, mais des fois les solutions viennent de petites découvertes qui étaient faites ailleurs, qu'on déplace dans un autre domaine, ce qu'on appelle les exaptations. Et c'est comme ça que fonctionne l'adaptation génétique et les adaptations comportementales et cognitives et morphologiques qui s'en suivent. C'est-à-dire, et c'était le génie Darwin d'avoir compris ça, mais les mécanismes, on les a compris un siècle plus tard avec la génétique. C'est-à-dire que les gènes mutent, mais ils s'en foutent de vous, vous n'avez pas idée. Hein. Vos gènes mutent, ils se recombinent, c'est la sexualité. Voilà. Et en définitive, ça veut dire quoi? C'est que la diversité génétique et la sexualité, c'est une machine à faire la diversité, ce sont en fait des solutions potentielles qui attendent leurs problèmes. Donc c'est une inversion totale. Et aujourd'hui, par exemple, la révolution numérique qu'on est en train de connaître, je vais vous surprendre, ça existe toujours aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'espace digital darwinien. Quand Steve Jobs est arrivé en janvier 2007 sur scène en Californie en disant « I'm going to change the world » en présentant le iPhone, il ne savait même pas ce qu'allait se passer. Personne n'avait imaginé ce qu'on appelle l'économie donc, de plateforme. Personne n'avait imaginé cette connectivité, ces problèmes de fake news, etc. Donc on voit bien que c'était une invention qui vient du téléphone sur lequel est venu se greffer des innovations et on ne s'y attendait pas du tout. Il y a plein de choses comme ça. Alors, ça va
mais
vous
sur la roue, je reprends la roue parce qu'on reparlera de la révolution du directeur. La roue, ça a été une innovation ou ça a été une invention pour un besoin?
C'est une invention qui vient peut-être d'ailleurs du tour de Potier. Puis un jour, peut-être le tour de Potier s'est cassé la gueule, pardonnez-moi de parler trivialement, la roue s'est mise à tourner, on s'est dit, merde, tiens, il y a une roue avec un axe. Peut-être... Et ça, on s'est dit, avec une charrette, ça serait génial. Les Aztèques, les Mayas, notamment, connaissaient la roue, mais ils n'ont jamais utilisé pour les routes. Donc, vous voyez, il faut toujours dissocier, même dans l'évolution des technologies, ce qui tient d'une part de l'invention, donc l'émergence de quelque chose de nouveau, et ce qui tient de l'innovation, qui va être donc capter cette invention et d'en faire une application qui va être utile à la société, pour les entreprises, pour le marché. Donc on joue sur les deux. Hein. Mais simplement, on a longtemps négligé cet aspect-là qui est donc l'innovation darwinienne, c'est-à-dire où les solutions attendent leurs problèmes. C'est surprenant. Hein.
Alors ça, c'est surprenant et ça va sûrement nous servir puisque nous sommes devenus, nous les humains, une espèce dominante à l'échelle de la planète. Mais comme vous l'écrivez, plus les espèces ont du succès, plus elles doivent s'adapter aux conséquences de ce succès. En serons-nous capables? Nous en parlons juste après une pause musicale.
Told by me, you're there to put your baby. Yeah. someone to save me, Lord. You better put your baby down. Oh, save me. Oh, all right. Oh,
Mensa dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi. Mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Et nous sommes toujours en compagnie du paléo-anthropologue Pascal Pic qui vient de publier « Sapiens face à Sapiens, la splendide et tragique histoire de l'humanité » chez Flammarion. Alors c'est cela la grande question, hein, Pascal Pic, c'est est-ce qu'on va vers du splendide ou vers du tragique ? Déjà nous sommes de plus en plus nombreux, l'Organisation des Nations Unies nous annonce que nous serons à peu près 10 milliards en 2050. Dans des écosystèmes dégradés, ça va être compliqué pour notre espèce quand même.
Ça va être compliqué, mais d'une certaine manière, 9 à 10 milliards de personnes à l'horizon 2050, si on est capable de mieux gérer l'agriculture, vous savez qu'on, globalement aux États-Unis, la moitié de la nourriture produite est complètement gâchée, jetée, un tiers en Europe, faut arrêter quoi. Et alors il y en a qui nous disent, ouais, faut produire encore plus. Franchement, voilà, Madame Ségolène Royal, à l'époque, avait bien dit, et sans le gâchis, on a des potentialités d'innovation. Non, ce qui ne va pas, c'est le système qui nous a amené là. Et donc, moi-même, ça peut vous surprendre, je dis même les gens qui parlent de décroissance se trompent. C'est plus une question de croissance ou de décroissance, comme si on avait qu'un seul schéma. Il faut qu'on change de schéma. Donc, c'est ça qui ne va pas.
Mais à quel niveau de schéma?
Au niveau de l'agriculture, au niveau de la redistribution, au niveau, évidemment, de l'exploitation des ressources, notamment halieutiques, qui se dégradent à toute vitesse, et puis, évidemment, tout ce qui est lié à l'émission des gaz de CO2. Mais vous savez, les solutions, on les a. On vient de dire que, voilà, il y a des solutions qui attendent leurs problèmes. Donc, les solutions sont là. Le problème, c'est qu'on n'a pas inventé le modèle de société qui permet d'intégrer à l'échelle mondiale, dans ce monde qui est complètement connecté, ça c'est une chance, la capacité de créer un monde de demain, une société avec les différences culturelles. Parce que là, moi je suis très darwinien et lévi-straussien, c'est-à-dire chaque culture va aborder ce monde qui vient avec ses solutions et ses différences. Les pays d'Afrique nous ont pas entendu de solutions, d'ailleurs ils nous ont pas attendu, ils sont très originales en termes d'économie. Vous savez, Jacques Ma, qui était ce grand bonhomme, qui était le créateur et le PDG de Alibaba, qui est le géant chinois parmi cinq autres du numérique. Jacques Ma vient de dire, l'Afrique se réveillera. On a dit, en Occident,
la Chine se réveillera.
L'Afrique se réveillera, parce qu'il y a de nouvelles possibilités. Et là, donc voilà. Donc,
oui, sachant que la population africaine va quadrupler au cours de ce siècle en plus.
10 milliards, avec les modèles économiques et la façon de faire aujourd'hui, on va à la catastrophe. Maintenant, les solutions ne sont pas inventées, c'est comment les intégrer dans ce qu'on appelle les synthèses créatrices pour créer un modèle de développement souhaitable pour le monde qui vient. Vous savez, des fois, Mme Greta Thunberg m'agace un petit peu, mais elle a raison, elle se mobilise. Moi, je suis une génération, j'ai un tout petit peu jeune, mais quand même j'y étais, de mai 68. On oublie que mai 68, c'était la jeunesse du monde entier qui a bougé. C'était aussi en Chine, c'était en Russie, c'était partout. Tchécoslovaquie, Yougoslavie, France, bien sûr. Là, j'ai l'impression que se profile, entre guillemets, une espèce de mai 68 avec tous les jeunes connectés qui nous disent, attendez, il nous faut créer un nouveau modèle de société qui soit écologiquement compatible et même, pourquoi pas, coévolutif avec l'écologie. Et ça, vous savez, c'est une révolution très importante d'un point de vue. Et c'est dit un petit peu dans le commentaire qu'on a entendu d'un monsieur, je n'ai pas reconnu sa voix.
C'était Pierre-Henri Gouillon.
Ah bah oui. Bah,
que vous connaissez bien.
Belle pensée. Oui. Donc, je salue mon ami Pierre-Henri Gouillon. La question qui émerge, c'est que nous avons été nourris avec un succès extraordinaire à l'idée depuis la Renaissance pour le monde occidental que une civilisation est d'autant plus avancée qu'elle est éloignée de la nature. Alors évidemment, les femmes en ont payé le prix, parce que comme les femmes, par leur cycle, sont près de la nature, les femmes nous empêchent de progresser. Voilà, on en est là encore, malheureusement. Et là, la chose étant, c'est que la révolution industrielle, et aujourd'hui le transhumanisme qui nous dit, attendez, on va s'en sortir, grâce à la technique, ce qu'on appelle le solutionnisme. Donc, cette folie-là, il faut qu'on l'arrête, parce que justement, depuis la Renaissance, alors on entend, oui, la Renaissance, on découvre la nature, mais de manière très idéale, soyons clairs, c'est pas la nature pour ce qu'elle est, et en l'occurrence, tout le modèle du développement de nos sociétés, ça a été part de la nature, on est dans la nature. Regardez une lithographie d'une ville de la Renaissance, vous n'avez pas un arbre, pas un seul animal. C'est l'homme qui s'extrait de la nature. Et regardez la révolution qu'on est en train de connaître, vous l'avez cité, les espaces urbains. En fait, on a changé de monde en 2007. Trois raisons. La première, la majorité de la population humaine est urbanisée et ça va s'accentuer. Deuxièmement, c'est l'arrivée du smartphone. Troisièmement, c'est l'intelligence artificielle dite moderne, donc avec le traitement des données. Tout ensemble, ça s'appelle les smart cities. Mais les smart cities...
Smart pour dire intelligent.
Oui, intelligent.
On revient à Sapiens, finalement.
Mais elles ne seront pas intelligentes, ces villes, s'il n'y a pas d'écologie dedans. La ville de Singapour est intéressante. Alors, j'aimerais pas vivre à Singapour, parce que c'est vrai que notre esprit européen ne colle pas trop avec cela. Mais néanmoins, c'est une expérience intéressante d'une ville dans laquelle l'écologie est rentrée dans la ville. Et donc, comment repenser le progrès avec la nature ? Sachant qu'on ne reviendra jamais en arrière, l'évolution ne revient jamais en arrière. Donc c'est comment préserver ce qui peut être préservé et créer une nouvelle dynamique. Mais l'avantage quand même, c'est qu'avec cette énorme urbanisation, se dégage, mais c'est le cas en Europe, hein, le centre de la France ou ailleurs, nous avons de grands espaces qui se diversifient et les loups n'ont pas attendu leur tour pour arriver. Donc il y a plein d'éléments positifs, mais qui ne sont pas encore intégrés dans une vision commune de l'avenir de l'humanité. Et ça, c'est le grand enjeu des anthropologues, des philosophes et des politiques.
Alors que vous écrivez que pour la première fois depuis 10 000 ans, toutes les sociétés humaines s'engagent dans une révolution commune, qui est donc cette révolution numérique avec la diversité de nos héritages biologiques et culturels. Et ça, c'est une première.
Et ça, c'est une première parce qu'il y a 10 000 ans, avant les inventions des agricultures, j'insiste, il n'y en a pas qu'une, eh bien, tout le monde était dans la même économie. Tous les peuples qui étaient sur la Terre, c'était des chasseurs-collecteurs. Aujourd'hui, nous sommes tous dans le numérique. Et c'est pour ça que chaque peuple, aujourd'hui, chaque continent, est en train d'aborder le numérique différemment. Regardez, la question, par exemple, de la reconnaissance faciale et de la vie privée. Mais les Chinois, ils s'en foutent. C'est Confucius. Ils ont des traditions où, eux, ça ne les trouble pas. Nous, ça nous trouble énormément. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas fait avoir. Hein, parce qu'évidemment, ils ont nos data. Vous vous souvenez du scandale Cambridge Analytica. Donc, nous, on veut maintenir nos vies privées, mais quand même, on nous la pique. Donc, mais les Africains sont en train de l'aborder différemment. Alors, par exemple, ça va vous surprendre, mais dans les compagnies d'assurance, c'est une vieille aventure quand même qui vient du monde occidental, les assurances. Il y a eu d'autres systèmes de solidarité partout dans le monde, mais le système des assurances au sens moderne du terme. Eh bien, l'entreprise d'assurance la plus innovante au monde, elle s'appelle Ping Ent, elle est chinoise. Ils ont commencé en 1988, il n'y avait pas la révolution numérique encore, enfin ça commençait à peine. Et ils ont 25 ans d'avance sur toutes les entreprises d'assurance. Parce que les Chinois ont abordé d'une manière très différente la question de l'assurance et de la solidarité et de la communauté par rapport aux Occidentaux.
Sous quelle forme ?
Sous quelle forme ? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, c'est une communication des données personnelles, mais c'est aussi le fait qu'ils avaient des rémunérations qui étaient basées sur chaque échange, parce que c'est une culture qui, évidemment, qui est très basée sur l'échange et très commerciale, et surtout sur la capacité de proposer des services différents par rapport au domaine sectorisé que nous avions. Par exemple, à travers Alibaba ou Ping Ent, c'était la capacité aussi d'accéder à des produits, à des services, à la médecine, également à des assurances, à de l'immobilier, etc. Donc, ils ont fait des combinaisons très différentes, mais qui était basée aussi sur leur approche culturelle. Et pour le Kenya, par exemple, mais c'est ailleurs aussi en Afrique, le Kenya, c'est une assurance... il y a une boîte d'assurance, mais aussi une banque qui s'appelle Equity Bank, où là, plutôt que, comme l'assurance ou la banque, c'était compliqué. Les gens, souvent, ils n'ont pas de registre de natalité comme chez nous. Ils savent à peu près quand ils sont nés, parce qu'ils savent quand ils sont nés, mais il n'y avait pas de papier officiel. Donc nous, quand les Occidentaux, quand on veut ouvrir un compte bancaire, on vous demande votre pédigré, vous êtes né, d'où vous venez, vos parents, votre patrimoine. Ben là, ils n'avaient pas. Donc ça ne marchait pas. Et donc ça fonctionnait sur la confiance des communautés entre les gens qui ont l'habitude, comme on faisait sur nos marchés dans le temps top là, où la réputation joue un rôle important. Ben tiens, un tel ou une telle n'a pas répondu à sa promesse. Et là, c'est comme ça qu'en partant sans mise de fonds, en ayant des données que nous utilisons et qu'eux n'avaient pas, ils étaient capables de créer ces assurances et ces banques qui aujourd'hui sont 37 ans et qui sont des modèles extraordinaires et qui partent évidemment à partir des mêmes technologies sur des bases anthropologiques du rapport à l'autre, à la confiance à la communauté qui sont différentes. Et c'est ça qui, moi, me donne quand même de l'espoir.
Mais alors, globalement, nous avons quand même massivement dégradé notre environnement. Donc, est-ce que vous pensez que notre espèce va être capable de s'adapter? Alors, par des innovations, certes, mais vous disiez on a grandi dans certaines, de façon très inégalitaire d'ailleurs, hein, parce que tout le monde n'a pas évolué de la même façon. Ce bon de bien-être dont vous parliez, vous, boomer, comme on dit maintenant, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ça n'a pas... Non, je ne dis pas que vous êtes vilain, mais les boomers sont un peu montrés du doigt en ce moment, parce que vous avez vraiment profité de la croissance.
Ouais,
et c'est vrai que ce n'est pas du tout réparti également à l'échelle du monde. Il y a quand même une inégalité très forte, et ça, c'est quelque chose qui est en train de monter de façon très puissante dans le monde et qui peut jouer aussi sur la difficulté de s'adapter ensemble.
Voilà, donc aujourd'hui, il y a deux grands problèmes qui sont vraiment pris en compte par une partie du monde économique et des grandes entreprises. Malheureusement, ce n'est pas assez connu. C'était cet été où 150, 180 même patrons de grandes entreprises américaines se sont dit « Écoutez les gars et les filles, si on continue comme ça, avec l'augmentation des inégalités sociales et l'aggravation du système écologique, on va se casser la gueule. » Donc là, aujourd'hui, on comprend bien que c'est un changement de modèle radical. C'est des études qui ne sont pas connues en France, malheureusement, même si c'était traduit en français. On estime que les entreprises qui ont engagé une véritable politique environnementale ou sociétale, on ne peut pas tout faire, mais authentique, bien pensée, on appelle ça des entreprises hybrides. Elles sont jugées sur leurs résultats financiers, commerciaux, et leurs résultats en termes de RSE. Eh bien, on estime que si ces politiques aboutissent, c'est 1400 milliards de dollars de gagnés par an pour la richesse mondiale et 400 millions de jobs. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer de modèle. Pendant longtemps, c'était on développe les industries, on crée de l'emploi, on crée de la retraite, on crée du bien social. On en discute. Mais les externalités vis-à-vis de la nature, parce que la nature n'a jamais été dans le modèle du progrès humain, eh bien, c'est la société qui doit les gérer ou on s'en fout. Eh bien, aujourd'hui, c'est terminé. On est obligé de les intégrer. Les externalités sont aujourd'hui des internalités que les gouvernements et les entreprises doivent gérer. Et je vous assure que déjà, les entreprises qui font ça, parce que qu'est-ce qui va changer? C'est pas les boomers, bien sûr. Les vilains boomers. C'est les millennials, ceux qui sont nés avec ces technologies. Aujourd'hui, ils rentrent dans les fonds de pension. Ils deviennent majoritaires. Ils deviennent majoritaires dans les entreprises. Ils ont une autre vision du monde. Et surtout, aujourd'hui, les jeunes diplômés, garçons et filles dans le monde entier, sont très regardants. C'est-à-dire, ils vont regarder les entreprises, leur identité, ils se sont sur leurs engagements sociétaux autres. Et voilà. Donc, une fois de plus, je vous dis, je suis pas en train de prêcher dans un optimisme béat. Je suis pas pessimiste, mais les problèmes sont très graves. Il faut vraiment qu'on change. Mais les solutions sont en train d'arriver. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas encore fait la synthèse créatrice d'une nouvelle conception d'un éco-progrès? Ben, c'est ça qui est en train de se mettre en place avec, il faut éviter la guerre de génération. Ces jeunes auraient été comme nous, ils auraient fait comme nous aujourd'hui. On est allé peut-être un peu trop loin. Et souvenez-vous, au milieu des années 90, quand le mur de Berlin tombe, Francis Fukuyama, qui est un intellectuel américain, dit « c'est la fin de l'histoire ». Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous dit que ça y est, le modèle occidental a triomphé avec le libre commerce, la libre entreprise, la démocratie, et le monde entier va nous suivre. Les Chinois vont nous suivre, ça. Il ne s'est pas du tout passé ça, vous voyez bien. Donc l'évolution n'arrête jamais et il est très clair qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout des enjeux, même si nos amis africains nous entendent, longtemps c'était le problème du Nord et du Sud, ce problème existe encore. Mais le problème, un autre problème, c'est généralisé, c'est qu'au sein de chaque pays maintenant, vous avez une bipolarisation du monde, avec des gens qui vont de mieux en mieux, qui réussissent, comme en Chine, comme en Afrique, c'est en train de monter, en Amérique du Sud aussi, en Amérique du Nord évidemment, et l'Europe. Et là, le vrai problème, c'était, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette idée de progrès qui consistait à amener les classes moyennes au maximum de confort, de santé, d'éducation qu'a connu ma génération, qu'aujourd'hui ce modèle s'est fragmenté depuis 15 ans.
Oui, on observe et un accroissement des inégalités. Il y a de plus en plus de plus riches, de plus en plus de plus pauvres.
Les plus pauvres ne sont pas plus pauvres qu'avant. Ils sont même moins pauvres. Le problème n'est pas là. Ce n'est pas l'absolu niveau de vie. C'est cette dichotomie. On perd les classes moyennes qui s'élitent. Et là, nous on le sait dans l'évolution, quand vous avez une population qui était bien adaptée avec une classe moyenne et évidemment ces deux extrémités, des gens très riches et des gens trop pauvres malheureusement, mais globalement une classe moyenne, et quand cette classe moyenne passe du dromadaire au chameau, c'est-à-dire qu'elle se bipolarise, ça veut dire que l'espèce n'est plus adaptée à son environnement. Et aujourd'hui, nos sociétés ne sont plus adaptées aux changements socio-économiques auxquels nous sommes confrontés. Et ça, il va falloir, on n'a pas la réponse, il va falloir vraiment qu'on y pense. Et c'est urgent. Je veux dire, ça va pas être deux quinquennats. On a un quinquennat pour le faire. Moi, je vous dis clairement ma pensée. On s'en verra peut-être dans 5 ans. Si les solutions n'arrivent pas dans les 5 ans, ça va très, très mal se passer. Et pourtant, on sait ce qu'il faut faire.
Alors, depuis l'histoire de la planète, depuis 4 ouais. milliards d'années, il y a eu plein d'espèces sur cette planète. Et puis la plupart, plus de 99%, je crois, ont disparu finalement.
Oui,
parce que
ça, c'est, ouais,
c'est le cycle de la vie. Ouais. Est-ce que l'humanité pourrait disparaître ?
Ouais. Alors, quand des gens disent... Sur les migrations, là j'ai toutes les parties de mon livre qui parlent des migrations. L'homme est un animal migrateur, qu'on le veuille ou non. Alors, vous voyez un petit peu la stupidité dans laquelle nous sommes en Europe occidentale ou ailleurs, chez M. Trump. C'est-à-dire, où on veut personne, où on ouvre les portes. C'est ni l'un ni l'autre. Les flux migratoires, c'est compliqué. Ça complique, ça change les sociétés, ça bouscule. Et ça, il faut qu'on y pense et qu'on l'assume, parce que de toute façon, on ne pourra pas en faire une économie. Et on a besoin de toute façon de flux migratoires, de toute manière, qu'on le veuille ou non. Surtout dans l'hémisphère nord, on a vieilli. Donc ça, c'est une chose. Et ce qui est amusant, des gens vous disent « Ah ben oui, mais Pascal Pic a dit avec ses collègues que Néandertal, Denisova, Sapiens, ça migrait. » Ouais, mais ils étaient quand même à peine 2-3 millions sur la Terre. Aujourd'hui, nous sommes presque 8 milliards, vous l'avez rappelé. Et là, tout flux migratoire, même s'il n'est pas très important, alors qu'en plus c'est la panique, il y a vraiment eu très peu de migration. Je rappelle quand même que le plus grand flux migratoire de l'histoire de l'humanité, hein, c'est les Occidentaux, 19e siècle, début du 20e. Hein, on est bien d'accord, hein, on a un peu tubé ça. Bon, je ne parle pas de la migration bantoue, ça c'est aussi c'est en Afrique. Mais ouais, le plus grand flux migratoire... C'est quand même les Occidentaux, on a un peu la mémoire courte. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser les portes ouvertes ou tout bloquer. Donc voilà, réfléchissons intelligemment. Maintenant, des gens
disent... Donc vous pensez qu'on va pouvoir s'en sortir grâce aux migrations ?
On ne pourra pas s'en sortir sans qu'on ait une véritable politique intelligente des migrations
Mais
au niveau mondial.
Mais sur cette histoire de dire l'humanité un jour disparaîtra, vous qui travaillez
non,
sur son évolution...
Ça, je vous rassure, on est 8 milliards sur toute la Terre, Homo sapiens ne va pas disparaître. La vraie question est, quelles sont les populations d'Homo sapiens qui vont survivre ? C'est ça la vraie question, avec les espaces urbanisés, etc. Donc, sapiens ne va pas disparaître, mais la vraie question, c'est, voilà, dans les espaces urbanisés complètement délirants, être maire aujourd'hui, à mon avis, il faut être un saint ou une sainte, hein, parce que c'est quand même délirant. Hein, c'est très compliqué, ces mégalopoles. Parce que nous, les Occidentaux, Europe occidentale, on ne sait pas ce que c'est qu'une mégalopole. Mais Lagos, Nairobi, les villes de Chine, les villes d'Amérique du Nord, on ne sait pas ce que c'est, nous. On a une chance extraordinaire encore en Europe par rapport à ça. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte des problèmes. Mais la chose étant, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, Homo sapiens ne disparaîtrait pas. La vraie question est... Comment amener dans un progrès ? Ce qui d'être progrès depuis qu'on en sait, c'était d'amener l'ensemble de l'humanité. Et ben là, on en est très loin avec ces inégalités, ces dégradations. Voilà. Donc, sapiens ne disparaîtra pas. Mais quels sont les sapiens et dans quel état seront nos ancêtres immédiats d'ici 50 ans ? Ça, c'est la vraie question. Parce que vous savez, on craint une chute de la démographie après 2050. Quand il n'y aura plus les vilains baby boomers.
Merci Pascal Pic, vilain boomers, d'être passé dans ces pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Sapiens face à Sapiens, c'est publié chez Flammarion. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Vous pouvez nous réécouter en podcast et retrouver nos invités en vidéo sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
En 2019...